Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est une première pour moi et c'est un honneur de me retrouver sur l'estrade parce que j'ai passé beaucoup de temps assis. C'est pas plus mal d'être debout de temps en temps. Donc, en effet, aujourd'hui, on va s'intéresser au marché de la bière en France et on va en particulier essayer de sortir la boule de cristal pour imaginer ce qui peut se passer sur base du présent. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter en deux secondes. Déjà, Projet Amertume, c'est pas une marque, c'est pas une entreprise. C'est un synonyme d'Emmanuel Gillard. Ce n'est pas non plus mon travail. À temps plein, j'ai un autre boulot à côté, je suis juste un passionné, un observateur du secteur brassicole français depuis que je suis arrivé en France il y a 25 ans. Je suis arrivé en France, il y avait 80 brasseries, on verra que ça a un petit peu changé. Et donc j'ai consigné tout ça, beaucoup écrit, rédigé sur le sujet. Je suis conférencier, formateur, également dégustateur, juré de concours. Projet Amertume, c'est finalement le site web. Également investi dans la vie associative, en particulier sur Grenoble avec une association qui s'appelle Just Beer. J'écris chaque année un livre qui s'appelle La bière en France, qui est uniquement un e-book et qui fait plusieurs milliers de pages parce qu'en fait on y retrouve dedans toutes les brasseries françaises qui ont eu au moins un jour d'activité depuis le 1er janvier 2000, mais aussi parce qu'il y a énormément d'analyses sur le marché. On verra pas mal de graphiques qui sont et de données qui sont issues de cet ouvrage. Et puis je rédige pour plusieurs magazines, dont un en France qui s'appelle Bière Magazine. Donc aujourd'hui, trois temps forts. La première partie, c'est pour imaginer le futur, pour qu'on comprenne bien le présent et quelles sont les choses qui forment les caractéristiques du marché brassicole français. Pourquoi la France n'est pas un marché comme l'Italie, la Belgique par exemple. On va s'intéresser au futur, donc on va voir les perspectives d'évolution et quelles sont les grandes tendances. Encore une fois, je n'invente rien, je ne suis pas Madame Irma, je regarde juste ce qui se fait, quels sont les... On parlait de précurseurs dans la première conférence de Sonia, mais c'est exactement la même chose. Et puis on va se poser la question, on est un tournant pour l'instant, en tout cas avec les conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine. On peut se poser la question, est-ce que c'est la fin de l'âge d'or ou est-ce que c'est l'âge de la maturité au contraire. Donc on va s'intéresser dans un premier temps sur l'état actuel et un petit graphique, une belle courbe en U où l'on peut voir que finalement on a à peu près regagné tout ce qu'on avait perdu comme brasserie en France depuis 1903. On voit très bien l'influence de la Première Guerre mondiale, l'influence de la Seconde Guerre mondiale, et puis par après, les rachats et les concentrations successives. Et puis, il y a eu les frémissements dans les années 80, essentiellement en Bretagne. Et puis, là, on est parti sur une belle courbe exponentielle, en tout cas exponentielle, on verra ce qu'il en est actuellement, mais en tout cas, qui était bien parti pour être exponentielle. On va zoomer un petit peu sur cette deuxième partie. Donc, j'ai commencé à noter le nombre de brasseries à partir de décembre 98. Et au dernier comptage, qui était il y a 5 jours, j'en suis à 2566. Alors, ce chiffre est à prendre avec des pincettes. J'ai toujours... Il n'y a que les douanes, en fait, qui peuvent le savoir. J'ai toujours beaucoup de retard. J'ai 28 pages de brasseries à traiter, entre les ouvertes, les fermées, etc. Donc, le plus intéressant, ce n'est pas le chiffre en temps réel, c'est les données consolidées lorsqu'on laisse le temps derrière. Voilà. Donc, par contre, ce qu'on peut voir, c'est cette fameuse courbe exponentielle, quand même, avec la courbe rouge, qui est une courbe de tendance, qui nous dit qu'on va crever les plafonds. Mais là, on voit quand même qu'il y a un petit plat qui est en train de se profiler, vu qu'en un an de temps, on n'a gagné qu'une cinquantaine d'unités de production. Alors, en France, on a des brasseries partout. Il y a 3 ans, Brasseurs de France disait que vous ne pouviez pas habiter en France métropolitaine à moins de 30 km d'une brasserie. Cette carte est disponible sur mon site en version interactive. Donc, il y a l'URL qui est ici. Et on va remarquer dedans Bien entendu, les deux régions historiques que sont le Nord-Pas-de-Calais et puis toute la partie Alsace. Mais on constate également une énorme concentration de brasseries, essentiellement unipersonnelles, dans toute la partie sud-est de la France. Donc, des brasseries absolument présentes partout. Alors, j'ai sorti les derniers petits chiffres du top 20 des brasseries par département. Et ça n'étonnera, je pense, personne que le Nord est en tête avec 121 brasseries. Ça étonnera peut-être plus le fait que le Rhône et l'Isère sont en deuxième position depuis de nombreuses années, alors que ce ne sont pas des terres nécessairement brassicoles. On peut également regarder rapidement les endroits où, pour un brasseur, c'est intéressant de s'installer. En gros, si on fait l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que c'est un cas un peu particulier, mais on constate qu'en Ardèche, si tous les habitants ardéchois devaient se retrouver dans l'ensemble des brasseries de manière répartie, eh bien, on aurait 6404 personnes par brasserie. Ça prouve qu'en Ardèche, il y a en fait beaucoup de brasseries, donc c'est un indicateur entre guillemets de concurrence. Un indicateur parmi d'autres, parce que ça dépend de la taille de la brasserie, etc. Mais en tout cas, un indicateur parmi d'autres. De la même manière, on peut imaginer, regarder les départements où c'est le plus intéressant pour s'installer, et on constate, sans surprise, que les Hauts-de-Seine sont les plus intéressantes, vu que vous aurez 200 et 2000 personnes dans votre brasserie si vous en ouvrez une. Après, il y a d'autres considérations, en particulier le prix de l'immobilier, par exemple. On peut faire l'exercice avec les régions, et là on voit que la fameuse région Auvergne-Rhône-Alpes écrase littéralement la concurrence, mais l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine se portent pas mal. Finalement, les régions historiques Grand Est et Hauts-de-France arrivent seulement en 4e et en 5e position. Et puis, de la même manière, là où la concurrence est la plus élevée, c'est en Bourgogne-Franche-Comté, suivi de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, de tout ça, dans mes bouquins, je sors pas mal de graphes. Il y en avait un qui était très sympa, c'était où acheter ou faire construire sa maison pour se trouver aux endroits où il y a le plus de brasseries à proximité. Mais comme vous voyez, maintenant, ça devient de moins en moins intéressant parce qu'il y a de plus en plus de brasseries. Il faudrait pondérer ça avec la qualité des bières produites. Je vais y songer. Alors, les acteurs actuellement, là, j'ai repris les 25 premiers sites de production français, j'insiste, parce que là, on voit bien que Heineken a trois sites différents. Le but, c'est pas de lister toutes ces brasseries, c'est juste de montrer qu'en fait, on a un secteur qui est excessivement concentré, vu que même des acteurs comme Castelin, Pietra, Trois-Monts sont quasi proches de zéro par rapport à la production des géants qui sont à côté. On peut regarder également au niveau production, cette fois-ci, quels sont les départements où il y a le plus de brasseries. Donc, le Bas-Rhin, vu qu'on va trouver dedans le numéro 1, la plus grosse brasserie à plus de 6 millions d'hectolitres. Le Pas-de-Calais s'en sort très bien également, vu qu'on a deux unités de production de Saint-Omer et Goudal qui appartiennent donc à M. André Pecker et qui forment ensemble plus de 5 millions d'hectolitres. La Meurthe-et-Moselle avec la brasserie Champignol, par exemple. Et puis, on voit la même chose, c'est qu'au bout d'un certain temps, rapidement, il n'y a plus grand-chose derrière. Et là, c'est tous les petits, entre guillemets, brasseurs. Donc au niveau des régions, le Grand Est est encore devant les Hauts-de-France. Il devrait y avoir un rééquilibrage, vu qu'en 2024, je vais peut-être mal le prononcer, vous m'excusez, mais Heineken Schlittigheim va fermer et devrait transférer sa production essentiellement dans le Nord. Donc peut-être que la l'hégémonie historique de la région Grand Est va disparaître. Donc, ces trois grands groupes, vous les connaissez. Le premier, c'est AB InBev, qui a quand même une caractéristique, c'est qu'il ne produit pas en France. Il n'a pas de site de production. C'est pas dans l'ordre, hein, du plus gros au plus petit. Le deuxième grand groupe, c'est le néerlandais Heineken. Alors lui, il a 3 usines en France, hein, une dans le nord, une dans l'est et une dans le sud à Marseille, l'usine de la Valentine. On a le Danois Carlsberg qui, lui, a qu'un seul site de production et qui est le plus gros de France, à plus de 6 millions d'hectolitres. Alors le volume, c'est bien. Mais pour l'instant, vous savez qu'on consomme de moins en moins d'alcool, donc ce qui est intéressant aussi, c'est la valeur. Du coup, j'ai repris pour ces 3 acteurs le marché en valeur en noir et le marché en volume en bleu. Et on peut constater, par exemple, qu'Heineken est relativement équilibré. Par contre, Kronenbourg fait beaucoup de volume, mais dégage peu de valeur. Alors ça se rééquilibre un peu pour l'instant avec les bières sans alcool. Derrière, qui sont en voie de promisation, on verra ça plus tard. À BNBF, mais c'est exactement l'inverse, ils produisent peu, mais derrière, ils dégagent des marges importantes. On remarquera également quelque chose dont on parle très peu en France, qui sont les MDD, donc les marques de distributeurs, et qui sont les principaux volumes qui partent à l'exportation. C'est-à-dire cette capacité qu'a des usines comme Saint-Omer ou Champignol de produire des millions d'hectolitres essentiellement de bières blondes de fermentation basse qui partent dans les supermarchés étrangers. Et donc c'est quand même un volume qui n'est pas neutre. Pour ce qui est des autres brasseurs, donc les petits entre guillemets, on constate qu'ils dégagent également plus de valeur que de volume. Et puis, ne quand même pas oublier que finalement, là-dedans, il n'y a rien de français. Et en fait, le premier français, ben, il n'est pas en France, il est en Afrique. Et c'est le groupe Castel dont on a entendu parler dans l'actualité ces derniers temps, avec ses problèmes, ses problématiques liées au groupe Wagner. On a une vingtaine d'acteurs de taille moyenne. On en reparlera parce que c'est un secteur sur lequel il va y avoir beaucoup de changements dans les prochaines années. Donc on peut parler de Saint-Omer, financière ACP. On peut parler de la brasserie de Champignol, de Météor, de Goudal, qui appartient aussi à la financière ACP, de Ninkasi Fabrique, etc. Et puis le reste, c'est-à-dire environ 2500 petites, entre guillemets, brasseries. Donc on va retrouver ici les différents typologies d'acteurs dont j'ai parlé, les grands groupes, les établissements de taille intermédiaire, donc les brasseries de taille moyenne, les petites et moyennes entreprises, donc les petits acteurs, et puis les marques du distributeur. Et vous voyez ici, en 2021, ce qui représentait en termes de valeur dégagée, et l'évolution c'est les chiffres de 2022, et là c'est l'évolution par rapport à l'année passée, l'année précédente, c'est-à-dire 2021, et on constate en effet que ceux qui sortent bien leur épingle du jeu, ben, c'est essentiellement les établissements de taille intermédiaire. On y reviendra. Une autre caractéristique de la France, c'est les bières biologiques. Il y a énormément de brasseries biologiques en France et ça a même littéralement explosé entre 2018 et 2020, essentiellement parce qu'on commençait à trouver finalement les approvisionnements nécessaires en local pour pouvoir faire des bières régionales et biologiques. Donc on est à 575 bières brasseries biologiques, c'est-à-dire qui produisent toutes leurs gammes bio. Je ne parle pas ici des gens qui ont une bière bio parmi leur total. Alors comme je suis également dégustateur, je suis un peu plus de 20 000 bières différentes dégustées avec des fiches de dégustation professionnelles derrière. Là-dedans, il y a 8 000 bières françaises. Et donc j'ai essayé de comparer un petit peu. Et là, vous avez ce que représente... Excusez-moi pour le bouton. La couleur jaune, c'est le pourcentage de marques de bière biologiques dans le reste du monde, hors France. Finalement, on voit qu'on est à peu près un peu plus de 2 et que c'est plutôt en descente. Par contre, en France, on voit qu'on est passé de plus de 8% et qu'on se rapproche des 14% des marques biologiques. Je parle bien de marques, je ne parle pas des volumes produits. Mais en tout cas, on voit bien que c'est forcément les petits acteurs qui se retrouvent derrière cela. Autre particularité de la France, qui fait que la France n'est pas un autre pays, ce sont les fermes brasseries. Donc ce sont des gens qui utilisent une partie de leur production, alors parfois ils ne sont pas en autosuffisance, pour brasser des bières. Donc ça peut être leur orge, éventuellement ils vont la malter, ça peut être du houblon. Donc les intérêts, ben, c'est une diversification, une diversification de la production et des sources de revenus. Économie circulaire, l'intérêt par exemple étant que les drèches ou les levures peuvent resservir pour l'alimentation pour le bétail. Le fait que, et ça c'est de moins en moins vrai, il y a des difficultés d'approvisionnement en mâles spéciaux ou en mâles biologiques régionaux. Et puis, on est dans une notion d'intégration verticale qui a tout son sens, vu qu'il n'y a pas de transport, il n'y a aucun intermédiaire. Et donc, on est en vente le plus souvent en direct, ce qui, dans cette période d'inflation, est quelque chose qui est très, très intéressant. Et puis, la dernière chose, j'y reviendrai, c'est la possibilité de créer, entre guillemets, une bière de terroir, parce qu'il faudrait qu'on se mette d'accord déjà sur le terme de bière de terroir. Donc, on voit qu'on est à peu près à 156... ferme brasserie en France, donc c'est quand même pas neutre, dont 126 produisent tout ou partie de leur orge. On en a 181 brasseurs qui produisent également leur houblon. Donc là, je ne parle pas des néo-houblonniers, hein, je parle vraiment des brasseurs qui ont également une houblonnière à côté. Pour les malteries, ben, c'est plutôt plat. Et c'est plutôt plat parce que tout simplement, il y a un réseau de malteries régionales qui s'est installé en France et qui fait que maintenant, ben, toutes les régions ont au moins une malterie régionale. Donc, il y a moins d'intérêt à faire son maltage. Et puis, je pense que les malteurs ont déjà suffisamment de métiers que pour ne pas en rajouter un qui est suffisamment compliqué. Mais il y a des gens qui le font. On a aussi pas mal de brasseries pédagogiques en France, ça c'est assez caractéristique. Donc brasseries pédagogiques, c'est pas les établissements d'enseignement à proprement parler, c'est ceux qui vous proposent de passer une journée pour voir un brassage, voire même certaines dont c'est le métier, ils ne font que ça. Vous arrivez sur place et quelques semaines après, vous faites le conditionnement, l'étiquetage et vous repartez avec votre produit. Donc c'est quelque chose qui marche toujours bien en France. Et puis, la bière, c'est bien, mais les offres qui vont autour, c'est important. Donc, certains brasseurs, parmi les offres annexes, proposent de la restauration. Et là aussi, on voit que c'est quelque chose qui se développe. On a 271 brasseries qui offrent de la restauration sur le lieu de production. On verra que les lieux de production, et qui étaient, il y a encore 15 ans, des endroits fermés, maintenant, il n'est plus concevable d'avoir une brasserie qui ne soit pas ouverte sur le public. Et si vous l'ouvrez sur le public, ben, il faut peut-être autre chose que de la bière pour qu'une famille s'y retrouve. Donc, les offres complémentaires sont importantes. En 2021, en utilisant ma base de données, à l'époque, il y avait un peu plus de 3000 contacts dedans, j'ai essayé de... voir quelle était la place des femmes dans le monde brassicole. Et à l'époque, il y avait 2147 brasseries et parmi celles-ci, il y avait 392 brasseries qui employaient au moins une femme dans leurs effectifs. Alors, si on rapporte ceci non plus au nombre de brasseries, mais au niveau des effectifs même, cela représenterait 13% des effectifs brasseries françaises. Et puis après, comme il y a les fonctions qui sont associées à ces personnes, j'ai essayé de voir quelle était leur fonction principale. Et là, on se rend compte que finalement, on retrouve beaucoup de femmes dans le brassage, effectivement, et puis au niveau de la direction des entreprises. Alors, c'est une petite photographie juste pour donner quelques chiffres et quelques idées sur l'année 2021. Donc c'était quand même il y a 2 ans. Je vais vous parler de la filière amont, donc l'orge. Tout ça pour dire que la France est très bonne en production d'orge et que dans l'orge, il y a deux types d'orge, hein, l'orge fourragère et l'orge de qualité brassicole, celle qui va nous intéresser. Et on est à peu près à 4 millions de tonnes d'orge cultivées sur 18,3% de la surface céréalière française. Cette orge, on va le transformer donc en malt. Et depuis 1967, la France occupe la place de premier exportateur de malt au monde. Et il y a trois grands groupes français qui figurent parmi le top 5 mondial et qui d'ailleurs ont fait pas mal de rachats ces dernières années. Donc, un chiffre intéressant quand même, c'est que 20% des bières brassées dans le monde, et en particulier beaucoup des bières belges, le sont avec du malt d'orge de brasserie française, donc de l'orge cultivée en France. Alors, on a parlé de bière de terroir, tout se recoupe. Pour faire de la bière de terroir, ben, il faut qu'on ait des ingrédients de terroir, donc qu'on ait de l'orge local, mais qu'on ait également des malteries qui soient capables de pouvoir transformer et valoriser cette orge en malt. Et on peut voir que actuellement, eh bien, nous avons des malteries. Alors, il y en a une qui est fermée hein, dedans, mais je l'ai mis parce qu'ils ont quand même eu un rôle précurseur important, c'est Maltereco. On a des malteries en France qui sont présentes sur l'ensemble des régions françaises. Et on devrait même avoir une malterie dont on parle depuis longtemps, mais qui devrait effectivement commencer à malter ces malteries occitanes, et puis un projet également dans Provence-Alpes. Donc le tissu, la filière amont est vraiment en train de se structurer pour pouvoir faire que le brasseur qui veut produire une bière locale avec des ingrédients locaux et commercialisée dans un rayon de chalandise limité puisse le faire. Pour le houblon, alors là, c'est les tout derniers chiffres de l'association Interhoublon, qui est en fait une interprofession qui a été créée, je crois, il y a à peu près 2 ans. Mais on est des nains hein, au niveau de la production mondiale. On voit qu'on a 629 hectares de houblonnières et qu'il en faudrait à peu près 2000 à 2500 pour pouvoir être autonome. Alors, chiffre à prendre avec des pincettes parce que, on l'a bien vu, les houblons cultivés en France sont très sensibles au terroir et on ne pourra pas nécessairement produire les mêmes qualités de houblons que les houblons américains ou néo-zélandais. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des choses à faire sur le terroir français, mais en tout cas, il reste à découvrir. Il y a eu un gros travail de recherche variétale pour des variétés purement françaises. Et on a dorénavant des néo-houblonniers qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Et on le voit très bien sur la petite carte ici à droite, vu qu'on voit que la troisième région en nombre d'hectares plantés est la Nouvelle-Aquitaine. Donc on ne s'attendrait pas à ce qu'il y ait autant de houblons en Nouvelle-Aquitaine. Alors, après la filière amont, on va s'intéresser à ceux qui vendent la bière. Dans la filière aval, ben en France, à peu près 80% part dans la distribution alimentaire. Et finalement, le café, hôtel, restaurant, ce qu'on appelle le CHR, représente à peu près 20%. Donc, on n'est pas un pays où on consomme beaucoup à l'extérieur. On consomme essentiellement chez soi. Il y a eu énormément de caves à bière qui ont été créées à un certain moment, essentiellement parce que les gens qui vendaient du vin ne voulaient pas nécessairement avoir de la bière à côté pour une question d'image. Ça a bien progressé maintenant. Des beer trucks, je pense même que nous avons le beer truck des Alpes qui est présent parmi nous. Et puis également des circuits numériques de distribution qui ont eu leur point culminant et qui ont apporté des nouvelles habitudes grâce ou à cause du Covid, c'est-à-dire les sites de vente en ligne, la notion de click and collect, et puis d'une manière générale, un fort développement de la vente directe depuis la pandémie de Covid-19. Alors, 4 petits tableaux. En France, les types de bières ont été historiquement, par le législateur, découpés en 4 catégories. Donc, les panachés, les bières sans alcool, les bières dites de luxe, qui en fait sont les bières qui sont entre 4,4 et 5,5, les bières spéciales blondes, et puis ce qu'on appelle les bières de spécialité, qui sont liées soit à une saison, soit à un pays, ou soit à une région. Et donc on constate que ces derniers temps, les bières de luxe ont fortement chuté, et que ce sont les bières de spécialité, et c'est normal, c'est celles sur lesquelles les marges financières sont les plus importantes, qui se développent. Dans ce deuxième tableau, là on est sur les volumes de vente, parce que le slide suivant sera sur la valeur. on constate que pour la première fois en 2022, ben, le secteur brassicole il s'est moins bien porté. Et chose étonnante, tous les types de bières en fait, ont connu en 2022 une diminution des ventes, en tout cas en volume. Maintenant, on va regarder les mêmes tableaux, mais en valeur. Et on constate cette fois-ci que les bières de spécialité sont celles qui génèrent des marges les plus importantes. Si vous regardez le pourcentage ici, que vous le comparez avec le pourcentage du tableau en volume, ça sort de manière évidente. Et puis, celles qui dégagent le plus de valeur sur une année en termes de variation, ce sont les panachés et les bières sans alcool. Donc on assiste finalement à une premiumisation du secteur des bières sans alcool. En fait, maintenant, on est capable de faire tous les styles sans alcool. J'ai même vu des Imperial Stout sans alcool, donc c'est vous dire, des bières barriquées, etc. Donc c'est logique aussi que ce segment, par ricochet, monte en valeur. Alors celui-là, je l'aime bien, je vais vous le remettre. Hein. Je peux ? Non ? Si, voilà. J'ai sorti ma petite boule de cristal. Excusez-moi, je ne suis pas un fan des animations, mais là j'en ai mis une quand même. Pour essayer d'imaginer ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est un nuage de mots derrière avec les différents termes dont on entend parler dans la littérature pour l'instant. Donc voyons ça d'un peu plus près. Et déjà, une première chose importante en France, c'est qu'il n'y a pas de définition réelle de ce qu'on appelle une bière craft. Alors j'ai voulu apporter ma petite définition. La bière craft en France, pour moi, c'est de l'artisanat. Je n'ai pas dit artisan, mais ça veut dire un nombre limité de personnes au sein de la brasserie. Artisan, c'est un statut en soi-même. Un faible volume de production. Certaines valeurs, donc l'innovation, la curiosité, la créativité. Quand je rencontre des brasseurs, je leur pose souvent comme question, la première question, c'est quoi les valeurs de votre entreprise ? Et puis cette notion d'indépendance. Hein, il y a le fameux I du SNBI. Et puis également le cinquième pilier qui est le terroir et qui est rendu possible par toutes ces filières amont qui s'est structurée. Donc une définition pourrait être une bière artisanale produite en quantité limitée par des producteurs indépendants à la fois innovants, curieux et créatifs qui cherchent à mettre en valeur leur terroir. Donc on constate qu'on valorise des individus plutôt que les sociétés. Ils font partie du produit finalement. Autre tendance, c'est le regroupement des petites et moyennes brasseries. Donc les trois premiers sont des groupes qui se sont récemment créés, hein, soit par des rachats successifs de brasseries, soit par exemple comme The Beers Family avec Dwick et Trois-Monts. Ce n'est pas des rachats, c'est un mariage de circonstances pour mettre en commun ses ressources administratives et commerciales. Donc, de plus en plus, on constate cela. On peut citer aussi, dans le Grand Est, un exemple qui est Brassicop. Vu que ce sont 18 brasseries du Grand Est qui se sont dit « notre métier, c'est de brasser », la partie distribution et commercialisation, c'est pas nous. Donc, on va créer derrière une coopérative brassicole qui aura pour vocation de transporter et de commercialiser les bières, les références de ces 18 membres. Des partenariats de distribution également. Peu de rachats, mais des partenariats de distribution, il y en a. Donc avec Cronenbourg, avec sa filiale House of Beer, je vous ai mis différents acteurs qui ont trouvé une stature nationale en termes de distribution via des accords avec Cronenbourg. Donc ils privilégient finalement les partenariats plutôt que les rachats. Heineken avec France Boisson qui distribue Crazy Hops depuis 2022. Et puis les rachats de brasseries, ben, ça reste quelque chose qui est finalement assez marginal. Il y a eu Gallia qui a été, alors c'était avant l'achat des premières parts, mais en tout cas ils sont devenus majoritaires en août 2021. Et puis tout récemment, on a la brasserie du Mont-Blanc qui est passée du côté belge avec le rachat par Duvel Morgade. Mais ça reste quelque chose qui pour l'instant est encore relativement limité, essentiellement parce qu'il n'y a pas de très gros acteurs. C'est un peu des grains de sable et c'est quelque chose qui est difficile à racheter. Les contrats de bière, c'est quelque chose qui est très important en France. C'est finalement une manière pour beaucoup de brasseries de substituer aux banques en signant des contrats avec les brasseurs, en leur offrant des moyens techniques, financiers, en échange finalement de différentes exclusivités, par exemple. Moi, j'insiste toujours sur le fait que ces contrats de brasseurs, c'est pas rien que la panacée des gros. Les petits peuvent le faire aussi. Les petits brasseurs peuvent le faire, par exemple, en allant voir des débits de boissons. Ça se fait énormément dans ma région. Et en leur offrant le bec supplémentaire avec le matériel de tirage correspondant et la sanitation correspondante pour être sûr que la bière soit servie dans les meilleures conditions possibles. Donc, ne voyez pas ça comme étant que la panacée pour les gros. Alors après, vous vous en rendez compte quand vous allez dans les supermarchés, ces vraies fausses bières craft, ce qu'on appelle le craft washing, c'est des grands groupes qui copient les petits. L'idée derrière étant de récupérer les codes, les images, les étiquettes, les styles d'étiquettes, les mots même qu'on peut retrouver dans le monde de la craft derrière. Alors, sur ce graphe, j'ai tracé en orange la liste, le nombre de brasseries créées sur une année. Et on constate que le pic, c'était en 2019 avec 389 brasseries qui se sont créées, soit plus d'une par jour, 2019. On voit que ça diminue fortement par après. Alors, on va regarder cette fois-ci le nombre de fermetures de brasseries depuis une année. On remarquera ici une année beaucoup plus basse, j'en parlerai après. Mais là, on voit qu'en 2022, on a eu 76 fermetures de brasseries. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire... si une année il y a 10 ouvertures pour une fermeture ou si il y a 100 ouvertures pour 10 fermetures, quelque part c'est à peu près la même chose, mais en tout cas ce ratio nombre d'ouvertures, nombre de fermetures sur une année peut être intéressant. Et là on constate plusieurs choses. La première, c'est que le point culminant était en 2017 avec un ratio de 8,62, c'est à dire qu'on avait 9 fois plus de création que de fermeture en 2017. Donc on voit finalement que l'âge d'or, c'était 2017-2019. Hein. On voit également une chute très importante de ce ratio et ces deux dernières années. Même s'il y a eu un petit plateau ici, alors là, c'est l'effet Covid et c'est l'effet aide gouvernementale qui ont permis de maintenir sous respirateur artificiel un certain nombre de brasseries. Donc, c'est pour ça qu'on a ce petit plateau derrière. Donc, pour l'instant, en 2023, je suis à 30 créations pour 45 fermetures. Donc, un ratio qui, cette fois-ci, est passé en très peu de temps en dessous du seuil fatidique de 1. Bière de terroir, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà de plein de manières différentes, mais orge locale plus malterie régionale plus néo-houblonnier égale bière de terroir. Je vous en ai mis quelques noms ici. Bon, la brasserie du Lyon, c'est un peu particulier parce qu'ils ne maltent pas, hein, eux. Ils ne travaillent qu'avec des céréales crues. Mais des gens en ont fait leur carte de visite. On peut aller jusqu'aux levures qui seraient également indigènes, et c'est souvent le cas avec ces brasseurs, voire pour Bruel, des barriques qui sont dans du bois, qui proviennent de la région. C'est un des rares brasseurs qui travaillent avec des barriques neuves. La diversification dans la distillation. Alors, c'est énorme ce qui se passe pour l'instant, et c'est un peu ce qui se passe au niveau des États-Unis. Aux États-Unis, pour l'instant, une brasserie sur 6 distille. Et puis, comme ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui arrive en France avec un peu de retard. On constate de toute façon que tous les malteurs sont en train de revoir leur galme pour la distillerie et on a dépassé les 200, officiellement, hein, 200 lieux de distillation en France. On en sera à peu près à 280 avec ceux qui ne commercialisent pas encore. Vous savez, le whisky, il faut attendre 3 ans avant de pouvoir le vendre. Donc ça, ce sera une grande tendance également pour les brasseurs. Moi, j'ai dénombré 37 brasseries-distilleries à ce jour, en octobre 2023. Après, c'est une chose que vous avez pu constater aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de places occupées dans les linéaires des grandes et moyennes surfaces et de plus en plus de références. Pour vous donner une idée, en 2019, on est passé d'une taille de linéaire de 7 mètres à plus de 8 mètres. Et on a été passé de 43 à 56 références. L'année passée, on était en moyenne à 80 références en grande et moyenne surface. Donc, c'est simple, ils ont compris que ça marchait bien. Donc, ils ont donné plus de place à la bière dans les linéaires. Le segment Nolo, donc no alcohol, low alcohol, c'est aussi quelque chose fonctionne bien et qui est aussi rendu possible par des nouvelles méthodes de production qui sont dorénavant accessibles aux petits brasseurs, ce qui n'était pas le cas avant. Par exemple, l'utilisation de levure maltose négative. Quelques chiffres. Donc, la bière sans alcool, selon Brasseurs de France, représenterait 5% du marché, avec une croissance dans tous les cas sur ces dernières années qui sont des croissances à deux chiffres. On avait vu précédemment que c'était un secteur qui dégageait aussi de la valeur. Le conditionnement en boîte métallique, je ne vais pas réexpliquer les avantages de ce contenant. Par contre, ce que je peux dire, c'est que 22,4% des références achetées en magasin sont dorénavant conditionnées en boîte métallique et qu'il y a maintenant de nombreuses solutions techniques pour les brasseurs craft afin de pouvoir conditionner leur bière. Alors, tous les styles ne sont pas conditionnables, en particulier ceux qui vont subir une refermentation ou un vieillissement important, mais en tout cas, c'est une solution en France qui est importante. Les bières à base de raisin, jusqu'à présent, les Français ont loupé le coche parce qu'il n'y a pas de style franco-français. Il n'y en a pas. La bière de Garde, pour moi, ce n'est pas un style. Les Italiens, eux, ils ont réussi, vu qu'ils ont réussi au niveau du BJCP à avoir le style Italian Grape Ale depuis 2015. Pourtant, on pourrait travailler avec les raisins entiers et donc les levures qui sont dessus, le mou, les mares, les lies, ou l'élevage en barrique, on voit que c'est un champ des possibles qui est incroyable et on est quand même dans un des pays du vin avec un parc de barriques qui est assez impressionnant. Donc que ce soit pour faire de la barrique neuve, de la barrique usagée ou de la barrique pour l'acidification, il y a énormément de possibilités derrière. Et les choses changent, quand même important. En 2022, la bière s'invitait pour la première fois au salon viticole Vinitech. Il va y avoir une formation de biérologue qui va se faire à l'Institut du vin et de la vigne à Reims. Donc on voit pour l'instant que la bière devient un acteur qui est crédible au niveau du vin. Les bières au houblon frais, c'est sympa parce que ça permet de valoriser les néo-houblonniers. C'est un peu plus compliqué à produire parce que pour avoir le même quantité d'huile essentielle et de résine, il faut en mettre 5 fois plus, vu que vous avez beaucoup d'eau dedans. Il y a eu un cahier des charges qui a été mis en place en 2022 par le Syndicat national des brasseurs indépendants qui dit ce que c'est, parce qu'avant c'était un peu compliqué. Il y avait des bières au houblon frais, mais en fait c'était mise en sachet sous vide, séchage partiel. Puis on se posait même la question, est-ce que Yakima, avec sa congélation, c'est du houblon frais ? Voilà. Au moins on a un cahier des charges derrière qui est clair. Les bières fortement houblonnées, finalement, c'est quelque chose qui ne s'essouffle pas. Il y a même, pour vous dire, les West Coast IPA qui étaient en chute libre il y a 4-5 ans reviennent en force maintenant. On est déjà reparti dans un cycle qui remet en valeur les premiers sous-styles d'IPA, en sachant qu'en plus, des nouveaux sous-styles apparaissent, comme par exemple le cold IPA, ou le no-cost IPA. Quelque part, pour moi, c'est vraiment le style étendard de la bière craft au niveau du consommateur lambda, celui qui a permis de faire le pont entre à la fois Monsieur Tout-le-Monde et l'expert en bière. Growler, crawler, ce sont toujours des choses qui marchent et ça marche selon les régions. Moi, je sais qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a des crawlers en particulier, c'est-à-dire la capacité d'emporter une bière pression en canette à son domicile lorsqu'elle vous a plu. Autre tendance également, le tourisme brassicole. Donc, ce n'est pas que des brasseries, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est aussi la filière en amont. Donc c'est un véritable écosystème, ça peut être aussi la bière et la nourriture, donc des pairings beer and food. Et on a de tout maintenant, depuis des agences de tourisme, des musées, des circuits touristiques, il y a même des escape games à la brasserie Page 24 Saint-Germain par exemple. En février 2023, il y a eu un label Héritage Bière qui a été lancé par la métropole européenne de Lille. Et puis, il y a le projet de Cité de la bière dans les Hauts-de-France, dont on devrait connaître prochainement l'endroit où cela va se tenir. Bon, les styles qui ont le vent en poupe, je pense que vous les connaissez. Les bières en barrique, les bières acides, le retour en grâce des lagers, même si ce n'a pas été l'explosion qu'on imaginait. Les bières légères, ce qui rejoint la tendance Nolo vue précédemment. Et puis, les bières pâtissière, c'est pas trop mon truc, mais voilà. La vente directe, c'est aussi une tendance importante, tout simplement parce que ça permet de dégager des meilleures marges, et qu'en cette période d'inflation, on s'est rendu compte que tout ce qui est vendu en direct à la brasserie, c'est pas mal. Pas de transport, pas d'intermédiaire. Autre tendance également, c'est les brew-pub et les taproom, donc pas confondre les deux. Brew-pub, c'est une brasserie qui produit et vend tout sur place. La taproom, c'est un lieu de consommation appartenant à une brasserie. Donc une brasserie qui serait en périphérie d'une grande ville aurait intérêt à avoir une taproom dans le centre-ville pour pouvoir offrir ses bières. Donc, de nombreux avantages, vente directe, le contact direct entre le brasseur et l'acheteur, pas de conditionnement, un produit frais, des références sans cesse renouvelées vu que c'est des petits batchs. Et puis, vous pouvez développer une gamme complémentaire avec de la restauration, du sans-alcool, etc. Ce qui rejoint d'ailleurs la tendance Beyond Beer, parce que outre la bière, vous allez pouvoir mettre en valeur les produits des brasseurs qui élargissent leurs horizons en se disant « je maîtrise la fermentation, qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Alors la limonade, ça c'est pas neuf, ça se faisait déjà depuis avant la Première Guerre mondiale, mais également tout ce qui est soda houblonné, kombucha, kéfir, hydromel, bragot, cidre, ça intéresse énormément les gros brasseurs au niveau mondial parce que ça leur crée des débouchés importants lorsque les chutes de bière qui continuent qui risquent de s'amorcer en volume continuer dans le futur. Des brasseries éco-responsables, on a vu qu'il y avait déjà pas mal de brasseries qui sont biologiques, et en fait ce n'est pas rien que pour le commerce en disant je vends du bio parce que le bio se vend bien. D'ailleurs pour l'instant le bio ne se vend pas très bien en France, mais c'est vrai que le public est plus sensible aux questions environnementales. Et puis, quelque part, le fait de consommer moins d'eau ou d'électricité, c'est aussi des économies importantes. Encore deux slides. Une forte compétition entre les brasseries de taille moyenne. Alors là, c'est quelque chose qu'on voit venir. Il y a eu des brasseries historiques, donc Trois-Monts, Duic, Météor. Il y a les brasseries créées à moins de 20 ans qui sont devenues, par la force des choses, des acteurs de taille moyenne. Et puis, on a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, from scratch. Ils n'ont pas d'histoire, mais ils se la créent, l'histoire, parce qu'ils savent s'entourer, finalement, des personnes qu'il faut. Ce sont des micro-industriels dès le départ, donc qui ont des gros moyens, parce que derrière, ils ont des investisseurs, ils utilisent tous les codes de la communication craft, ils fonctionnent sous forme de modèle de start-up, et ils ont cette capacité de produire de la bière craft en visant la grande et moyenne, les GMS, essentiellement le grand et moyenne surface, à des tarifs très compétitifs. Donc un segment sur lequel il va y avoir beaucoup de compétition dans le futur sera justement ces brasseries de taille moyenne. Beaucoup de nouveautés également sur les levures, fermentation basse, maltose négative, notes funky, vous aurez différents exemples ici parmi les exposants. La cohabitation des fûts inox et des fûts à usage unique, on a pensé à un moment que le plastique c'était la panacée, mais on se rend compte que c'est pas aussi recyclable que ça. Et surtout, l'inflation en 2022, ça a pris 40% donc en un an. Donc du coup, finalement, le fait d'avoir une cohabitation entre les deux et d'avoir un parc à la fois inox et comment dire, de fûts à usage unique est une chose intéressante. D'autant plus qu'il existe maintenant des solutions externalisées de location de fûts inox. Je ne vais pas citer de marque, mais il y a en gros une quinzaine d'entreprises qui offrent ça en France. Et puis, ben, la grande tendance, la dernière, malheureusement, c'est l'inflation qui a désorganisé la filière amont. Le prix d'une bouteille vide, c'est plus de 50% du prix de revient de la bière. Donc, on comprend quand le verre subit une forte inflation, ben, derrière, ça impacte directement les brasseurs. Alors, au bout de tout ça, on peut se dire, est-ce que c'est l'âge d'or ou l'âge de maturité ? Alors là, c'est juste mon interprétation. On pourrait se dire que c'est la fin de l'âge d'or parce qu'on a vu qu'il y avait une stagnation du nombre de brasseries au premier semestre 2023, ce qui est quand même une nouveauté. On sait également qu'il y a plusieurs fermetures qui sont directement liées à l'inflation. On sait qu'il y a pas mal de brasseries qui ont passé des caps difficiles ou qui sont encore dans ce cas parce qu'il y a, il y a eu la pandémie puis l'inflation. Qui plus est, l'aide de l'État, ben, à ce moment, il faut bien la rembourser. Et donc, les prêts garantis par l'État doivent être remboursés. C'est maintenant que ça se fait. Et puis, on a tous ces acteurs de taille intermédiaire qui peuvent produire de la craft à bas coût qui arrivent sur le marché. Donc, fin de l'âge d'or. Ou au contraire, est-ce que c'est l'âge de la maturité ? Et ce qui pourra aller dans ce sens, c'est une professionnalisation de la filière craft. Par exemple, l'inscription, même si elle est très tardive, du titre de brasseur au répertoire national des certifications professionnelles, en est un exemple. Les nombreuses formations diplômantes que l'on peut trouver, et pas rien que comme brasseur, également comme zytologue, biérologue en France, est un autre exemple. La structuration de la filière amont qui est, on peut le dire maintenant, prête pour produire des bières de terroir. Et puis, ayant la chance de participer à des concours en tant que juré, les retours des brasseurs sur sur les bières françaises sont assez clairs. Ce qu'on dégustait il y a 15 ans et ce qu'on déguste maintenant, ça n'a plus rien à voir en termes de qualité. Et il est très rare d'avoir une bière qui soit, entre guillemets, catastrophique lors d'un concours. Alors que dans le passé, c'était des choses qui constituaient, j'ai envie de dire, plus de 50% des échantillons il y a une quinzaine d'années ici. Donc on voit qu'il y a aussi une maturité de la qualité derrière. Donc pour moi, c'est l'âge de la maturité. Pourquoi ? Qu'il emporte ? Parce que c'est les consommateurs qui décident et que la demande pour la bière craft reste très forte. Le problème, c'est que pour l'instant, elle est un peu chère et que, bon, il faut pouvoir se la payer. Que l'inflation a certes accéléré les fermetures, mais c'est essentiellement les plus fragiles, ceux qui n'avaient pas de véritable vision pour l'avenir. En gros, j'ai envie de dire que l'inflation, elle a fermé les brasseries qui auraient dû fermer dans les 5 ans. Ça a été un peu un accélérateur, une maturité à marche forcée. Et on constate maintenant que les gens qui démarrent ont des projets qui sont beaucoup plus structurés et beaucoup plus réfléchi, et c'est nécessaire maintenant, alors qu'avant, il y a 10 ans, c'était des choses faciles. Et puis, je pense qu'en restant petit, avec un bon ancrage local, c'est ce que j'appelle les boulangers, hein, finalement. Est-ce qu'il y a trop de boulangers en France ? J'ai jamais entendu dire ça. Et bien là, c'est la même chose. Je pense que dans les petites brasseries, si on fait la vente directe, qu'on présente une gamme cohérente et qu'on offre une image en phase avec ses valeurs, ben, il reste de la place sur le marché. Voilà, j'en ai fini. Juste un petit coup de pub pour mon e-book La bière en France, édition 2023. Prix libre, toutes les sommes étant reversées au Resto du Cœur. Vous y verrez plein d'autres sujets qui sont abordés. Je vous remercie.